d'être à 17h au studio Kalungu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 26 mars 2021 au micro Nafis Adam Sirfo. Au sommaire, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022, l'équipe MENA du Niger affronte cet après-midi à Niamey les éléphants de la Côte d'Ivoire. À quelques heures de ce match, les supporters du MENA se mobilisent pour soutenir les joueurs. Le procès du directeur de publication du journal L'Événement prévu ce matin est reporté au 2 avril prochain pour mise en état du dossier. Moussa Ksar est accusé de diffamation dans l'affaire du ministère de la Défense nationale. En partie magazine de ce journal, nous verrons l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur l'économie artisanale au Niger. Le MENA, l'équipe de football du Niger, jouera ce soir à domicile au stade Général Seyne Kounthié contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022, un événement important pour les supporters de l'équipe. Ils feront d'ailleurs le déplacement du stade malgré le nombre de places limitées à cause de la COVID-19. Écoutons le président des supporters du MENA, Rafa Abdourazak, au micro de Salamatou Kadri.
Ça se prépare très bien depuis. En tout cas, on a déjà presque tout fini. Vous savez, un match, c'est le public. Et aujourd'hui, par rapport donc à ce qui se passe relativement donc à la coronavirus, il n'y a pas de public. Donc la CAF a quand même pris le soin donc, de permettre à 2000 personnes donc, de rentrer au stade. Donc vous imaginez avec moi, un stade qui contient 30 000 personnes, 2000 personnes, ce n'est rien. On ne peut pas faire un bon travail comme ça. En tout cas, aller supporter comme ça se doit, c'est quand même compliqué. Mais on a quand même essayé donc, de voir avoir un petit nombre donc, avec des enfants qui sont dégourdis, qui sont as dans comment supporter. Donc avec leur tambour, nous, notre rôle donc, des supporters, c'est vraiment d'aller supporter quelles que soient les conditions. Donc ils sont obligés donc, de monter un peu les prix. C'est 15 000 francs tribune officielle, 2 000 francs les gradins et 1 000 francs gradins. Donc ils ont fait 2 000 tickets et plus quelques cartes d'invitation.
Je vous le disais dans les titres, le procès du directeur de publication du journal L'Événement, Moussa Ksar, est reporté au 2 avril prochain pour mise en état de dossier. Moussa Ksar déclare être disponible pour en parler. Pour rappel, il est accusé de diffamation dans le cadre de son enquête sur les malversations au ministère de la Défense nationale. Moussa Ksar est au micro de Adam Dawaki.
Ça fait la troisième fois qu'il y a eu le report relativement à ce dossier sur le vaste scandale de détournement du ministère nigérien de la Défense. Ça, c'est au niveau du juge et des avocats de deux parties qui ont fait en sorte qu'il y ait ce report. Mais moi, je suis personnellement prêt pour parler de ce dossier dont je fais pratiquement 10 mois en train de faire cette enquête. C'est une enquête qui n'a pas concerné seulement le Niger. C'est une enquête du consortium international du journalisme d'investigation qui est basé à Washington, en collaboration avec la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest dont j'assume la présidence. Il y a 2 semaines de cela, le Parlement britannique a brandi ce dossier-là pour demander des comptes à ceux qui ont créé des sociétés offshore. Donc cette enquête-là ne va pas s'arrêter seulement au Niger où les gens parlent seulement de surfacturation. Donc c'est dans cette enquête que nous avons trouvé un nom, une personne que nous ne connaissons pas et qui se trouve être en Belgique. C'est avec elle que certaines choses se sont passées et nous l'avons dénoncé comme tous les autres. Et c'est cette personne qui nous a assigné en justice.
Après les attaques perpétrées par des hommes armés dans le département de Tilia en début de semaine, une mission humanitaire du système des Nations Unies avec certains membres du gouvernement s'est rendue mercredi à Tilia. Le ministre de la Défense a rassuré la population de la zone du retour très prochain de la patrouille de la force Chara. Professeur Issoufou Katambe, au micro de notre envoyé spécial Moussa Abdrahman.
Il y avait l'opération dénommée Chara. Maintenant, elle n'a pas le même effectif qu'elle avait au départ. En son temps, aucune infiltration ne peut se faire dans cette zone. Mais depuis que l'effectif a été réduit, les insurgés sont revenus. Sinon, auparavant, ils ont peur de franchir la zone. Cette fois-ci, les mesures qui seront prises pour cette opération Chara, nous allons la renforcer dans cette zone. Certes, c'est vrai, ce qui a réduit l'effectif est relatif aux affectations de certains éléments effectués au sein de ce contingent. Certains ont été redéployés vers l'ouest et vers l'est. Mais maintenant, la mesure qui sera prise consiste à ramener tous ces éléments pour revenir renforcer cette opération Chara. Avant, il y avait plusieurs patrouilles qui font des va-et-vient dans la zone. Cela fait des mois que ces patrouilles patrouilles ne sont plus faites. S'il plaît à Dieu, la première mesure consistera à reprendre ces patrouilles. Et au-delà, il y aura d'autres mesures qui seront prises pour que la paix s'installe.
13 morts et un blessé grave, c'est le bilan de l'attaque survenue le 24 mars dans la commune rurale d'Anzourou, région de Tillabéri. Selon Amadou Haroun Meiga, coordinateur de l'Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, des hommes armés non identifiés étaient venus sur des motos, ont encerclé le village en pleine journée et ont ouvert le feu sur la population. Amadou Haroun Meiga explique au micro de Adam Douaki.
L'attaque, ce que nous avons appris, c'est le jour du marché de Sarakwara. Ils sont arrivés et maintenant ils ont complètement encerclé le village. Comme les gens sont habitués à leur razzia, à leur attaque, les gens, dès qu'ils les ont vus, il y en a qui ont cru devoir trouver cachette, refuge ailleurs. Donc ils ont abandonné leur maison par peur. Parce que leur mode opératoire, le nouveau, c'est qu'ils rentrent même dans les maisons maintenant. Pour la plupart, en tout cas les informations que nous avons reçues, parce que hier nous étions sur place avec le gouverneur de Tillabéri, le préfet de Tillabéri et le chef d'état-major lui-même. Au tout départ, on nous a dit à Gadebo, là, il y a eu 6 morts, il y a un blessé grave. En tout cas, jusqu'à hier que nous sommes revenus, il y a 13 morts. Ils ont le moral très bas. Quels que soient les propos que vous jugez utiles de les rassurer, c'est zéro. Les gens, ils disent oui, c'est tout. Mais au fond d'eux, il y a la peur. Le mal, c'est parce qu'il y a des complicités.
Restons toujours dans ce chapitre sécuritaire. L'ambassade d'Espagne au Niger a organisé ce matin à Niamey une rencontre sur le thème « Lutte contre le terrorisme au Sahel », l'engagement de l'Espagne. Une rencontre au cours de laquelle ont pris part les ministres espagnols de la Défense de l'Intérieur ainsi que plusieurs responsables militaires nigériens, espagnols, européens et africains. Nuria Regoza González, ambassadeur d'Espagne au Niger, explique les objectifs de cette rencontre.
Le message que nous voulons donner aujourd'hui avec cet événement, se dire que l'Espagne est prête à partager ses expertises dans ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Nous avons beaucoup de projets, de programmes dans lesquels nous travaillons ensemble avec le gouvernement nigérien et nous croyons que ça c'est la façon de pouvoir faire face à cette menace.
Dans quel domaine particulièrement vous voulez intervenir ?
Par exemple, un domaine très clair, c'est la création des forces rapide comme le programme Garci qui permet de créer des unités spécialisées pour lutter contre le terrorisme. Après, il y aura dans quelques mois une équipe conjointe d'investigation pour la lutte contre le terrorisme formée par la police espagnole, française et nigérienne pour partager des pratiques policières, de renseignements, pour avoir des résultats concrets.
Des propos recueillis par Tarnan Foudey Ahmed. Pour arriver à mettre fin à l'insécurité dans un pays, il faudrait nécessairement mettre l'accent sur la bonne réforme et la gouvernance du secteur de sécurité. C'est selon le coordinateur pays du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF au cours d'un atelier de 3 jours à Niamey. Comment cela permettra-t-il de stopper l'insécurité au Niger, touché depuis quelques années par une insécurité? Réponse avec Lou Moussangira.
Tout d'abord, il y a ce lien qui est très indéfectible entre la sécurité et le développement. Et en plus de cela, la gouvernance est bien liée au développement, c'est-à-dire que si vous gérez mal vos affaires, si les secteurs de la défense sont corrompus, ils ne peuvent pas assurer la sécurité du citoyen. Actuellement, on ne parle plus de sécurité centrée sur le militaire ou sur le chef qu'il faut protéger. C'est une sécurité qui va considérer tous les aspects qui donnent aux citoyens la possibilité de bien vivre, de se sentir en paix, et cela a appelle à la responsabilité des responsables de la sécurité, et que ce soit les responsables du contrôle interne, mais aussi le contrôle externe qui est naturellement exécuté par soit le Parlement, les associations de la société civile, les journalistes et consorts. Ça signifiera que l'État et ses responsables doivent être proches des citoyens pour pouvoir leur dire quel comportement adopter, et aussi les citoyens ne doivent pas se cacher derrière pour en fait aller s'armer contre leur propre pays.
Les responsables des églises chrétiennes du département de Dakoro de la région de Maradi ont entrepris des réunions de sensibilisation sur la cohésion sociale et la paix hier dans tout le département. Par cette action, ils visent à prévenir d'éventuels conflits qui peuvent naître entre les différentes communautés qui vivent ensemble. Bamo Jaloudo, président de l'organisation chrétienne et initiatrice de la réunion, est au micro de Adamo Omoro.
L'objet de cette rencontre est d'attirer l'attention des participants sur l'importance de la culture de la paix, pour que la paix règne partout au Niger. Toutes les régions sont représentées. On note également la présence des représentants de l'État. Le principal message à véhiculer est que chaque citoyen vive en paix, dans sa famille, dans son entourage, parmi ses amis. C'est un forum que nous organisons depuis longtemps et chaque année, nous choisissons un thème. Et nous avons jugé utile de choisir le thème de la paix cette année, car aujourd'hui, le monde a changé à cause de l'insécurité. Avec la paix, l'on peut avoir tout ce dont on a besoin dans la vie.
Les futurs pèlerins nigériens se préparent pour le Hajj 2021. En plus des anciens qui se sont déjà inscrits l'année dernière, les agences de pèlerinage enregistrent de nouvelles inscriptions. Le quota des pèlerins réservés au Niger n'est pas encore fixé selon El Hajj Moumouni Amadou, président de l'Association nigérienne des agences de pèlerinage qui est joint au téléphone par Ousmane China.
Les pèlerins qui sont déjà inscrits l'année dernière, il y en a qui ont récupéré leur argent et il y en a qui ont laissé leur argent pour le Hajj de cette année. Il y a eu des sensibilisations au niveau de toutes les régions du Niger pour que vraiment les gens se préparent pour le Hajj de cette année. Donc, ils sont en train de s'inscrire. Chaque jour, les gens arrivent pour s'inscrire.
Quel est le quota qui est réservé au Niger cette année?
Bon, pour le moment, il n'y a même pas eu d'émission. On n'a même pas invité les pays à aller en Arabie Saoudite pour la mission Hajj. Ça, c'est quand la mission sera là-bas que les autorités saoudiennes détermineront comment le quota avec les pays concernés dans le Hajj.
À présent, la partie magazine de ce journal. Au Niger, la pandémie de la COVID-19 a impacté tous les secteurs socio-économiques du pays, notamment le tourisme qui est le pilier de l'économie artisanale. En effet, avec l'application des mesures comme la fermeture des frontières, les artisans nigériens n'arrivent plus à écouler leurs produits. Moussa Hassan s'est intéressé à la question. Voici son reportage.
Assise devant son comptoir dans la grande boutique du village artisanal de Niamey, aéré par un ventilateur mis à fond, Madame Amadou Aïssa Boukari, la main droite sous le menton, regarde le manœuvre de poussiérer les différents articles exposés. Elle déplore la rareté des clients liés au COVID-19, dit-elle.
Il n'y a pas trop d'entrées, pas trop de visites. C'est à peine qu'on a un, deux clients par jour. Même s'ils viennent, c'est pour visiter et ressortir. Parfois, on vend même pas 1000 francs par jour. Les Nigériens, c'est pas tous qui s'intéressent à nos produits. Donc s'il y a des conférences, les Nigériens viennent acheter les produits pour faire des cadeaux aux étrangers. Avec le Covid-19, vraiment, c'est ralenti. Comme il n'y a pas de sortie.
Malgré la mévente, les artisans du village artisanal continuent à produire. Joignant difficilement les deux bouts, ils espèrent de lendemain meilleur.
Notre clientèle est essentiellement composée des étrangers et ces étrangers ne viennent plus. Auparavant, certains de nos artisans participent aux foires à l'extérieur. Mais maintenant, ce n'est plus possible car les frontières sont fermées. Depuis l'apparition du Covid-19, nos produits ne sont pas sortis à l'extérieur. Voyez-vous, ils sont là, étalés. Que peut-on faire sinon que de se patienter?
La pandémie du Covid-19 nous a beaucoup touchés vraiment, en dépit de l'appui dont nous avons bénéficié de la part de l'État. Tu peux passer toute une journée sans qu'un seul client ne te rende visite. Nous ne savons pas quoi faire. Et puis, il y a un climat de méfiance entre nous et les clients à cause de cette maladie.
À Agadez, où l'artisanat est le pôle de l'économie locale, les jeunes artisans demandent aux autorités de leur trouver des débouchés pour écouler leurs produits bloqués par l'application des mesures comme la fermeture des frontières.
Aujourd'hui, avec le phénomène de la COVID, on n'arrive plus à sortir pour écouler nos produits. Donc ça impacte gravement notre activité.
On a fabriqué pas mal de bijoux, mais on ne peut pas les écouler. C'est le travail qu'on connaît, c'est ça. On ne peut pas faire d'autres métiers. On est vraiment dans des difficultés pour pouvoir vraiment écouler nos produits.
Selon le ministère nigérien du Tourisme, le secteur de l'artisanat contribue pour 25% au produit intérieur brut. Il est le deuxième pourvoyeur d'emploi après l'agriculture. Il mérite donc une attention particulière des autorités face à l'impact du COVID-19.
Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Au revoir.